Depuis l'aube du 10 mai, la drôle de guerre est terminée. À l'ouest, l'armée allemande vient de déclencher son offensive. En quelques jours, son plan est presque entièrement exécuté. L'ennemi est à Laon. Paris est découvert. Le 18 mai, M. Paul Reynaud s'adresse au peuple français en ces termes.
Je vous ai dit avant-hier que l'ennemi avait réussi à faire au sud de la Meuse une large poche. Cette poche s'est élargie vers l'ouest. La situation est grave. Elle n'est nullement désespérée. C'est dans des circonstances comme celle-ci que le peuple français montre ce qui est en lui. Les sacrifices des soldats sont ceux vers lesquels se tendent toutes nos pensées. Il y a aussi les souffrances morales et matérielles de leurs familles, des réfugiés, des victimes du bombardement de l'ennemi. La grandeur de notre peuple est qu'en des circonstances comme celle-ci, il oublie ses propres souffrances pour ne plus penser qu'au péril de la patrie. Ce que le pays attend du gouvernement, ce ne sont pas des paroles. Il n'en a que trop entendu depuis quelques années. Ce sont des actes qu'il veut. Voici les décisions que je viens de prendre. Le vainqueur de Verdun, celui grâce à qui les assaillants de 1916 n'ont pas passé, celui grâce à qui le moral de l'armée française en 1917 s'est ressaisi pour la victoire. Le maréchal Pétain est revenu ce matin de Madrid, où il a rendu tant de services à la France. Il est désormais à mes côtés comme ministre d'État, vice-président du Conseil, mettant toute sa sagesse et toute sa force au service du pays. Il y restera jusqu'à la victoire.
Malgré la volonté et la foi du général Weygand qui a remplacé le général Gamelin à la tête des armées, la bataille des Flandres est perdue. La bataille de France s'engage. Churchill refuse l'envoi de renforts aériens. L'Italie entre en guerre. Roosevelt répond par une fin de non-recevoir à l'appel au secours du gouvernement français. La France est abandonnée et la situation désespérée. Au sein d'un conseil des ministres divisé, le maréchal Pétain a pris position en faveur de l'armistice. Dans les graves circonstances actuelles, annonce le communiqué officiel, le Conseil des ministres, sur la proposition de M. Paul Reynaud, a décidé que le gouvernement de la France devait être confié à une haute personnalité, recueillant le respect unanime de la nation. En conséquence, M. Paul Reynaud a remis au président de la République la démission du cabinet. M. Albert Lebrun a accepté la démission en rendant hommage au patriotisme qu'il avait dicté et a fait immédiatement appel au maréchal Pétain qui a accepté de former le ministère. Le 17 juin à 12h30, le maréchal prend la parole à la radio.
Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie.
Dans son deuxième message, il expliquera aux Français frappés de stupeur les raisons de la défaite.
Français, j'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités. Le gouvernement a désigné hier les plénipotentiaires chargés de recueillir leurs conditions. J'ai pris cette décision dure au cœur d'un soldat, parce que la situation militaire l'imposait. Nous espérions résister sur la ligne de la Somme et de l'Aisne. Le général Weygand avait regroupé nos forces. Son nom seul présageait la victoire. Pourtant, la ligne a cédé et la pression ennemie a contraint nos troupes à la retraite. Dès le 13 juin, la demande d'armistice était inéluctable. Cet échec vous a surpris. Vous souvenant de 1914 et de 1918, vous en cherchez les raisons. Je vais vous les dire. Le 1er mai 1917, nous avions encore 3 280 000 hommes aux armées, malgré 3 ans de combats meurtriers. À la veille de la bataille actuelle, nous en avions 500 000 de moins. En mai 1918, nous avions 85 divisions britanniques. En mai 1940, il n'y en avait que 10. En 1918, nous avions avec nous les 58 divisions italiennes et les 42 divisions américaines. L'infériorité de notre matériel a été plus grande encore que celle de nos effectifs. L'aviation française a livré à 1-6 ses combats. Moins fort qu'il y a 22 ans, nous avions aussi moins d'amis. Trop peu d'enfants, trop peu d'armes, trop peu d'alliés, voilà les causes de notre défaite. Le peuple français ne conteste pas ses échecs. Tous les peuples ont connu tour à tour des succès et des revers. Et par la manière dont ils réagissent, ils se montrent faibles ou grands. Nous tirerons la leçon des batailles perdues. Depuis la victoire, l'esprit de jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. On a revendiqué plus qu'on a servi. On a voulu épargner l'effort. On rencontre aujourd'hui le malheur. J'ai été avec vous dans les jours glorieux, chef du gouvernement. Je suis et resterai avec vous dans les jours sombres. Soyez à mes côtés. Le combat reste le même. Il s'agit de la France, de son sol, de ses fils.
L'armistice est conclu. De cet armistice, Winston Churchill dira plus tard au général George : l'armistice nous a rendu service. Hitler a commis une faute en l'accordant. Il aurait dû aller en Afrique du Nord, s'en emparer pour poursuivre sur l'Égypte. Nous aurions eu alors une tâche bien difficile. Les semaines passèrent et la guerre continuait entre l'Allemagne et l'Angleterre. La France, écrasée, sous le joug de l'occupant, était en butte à ses menaces et à ses représailles. Il fallait la faire vivre. En secret, le maréchal décida de provoquer une rencontre avec le chancelier Hitler. La rencontre eut lieu à Montoire. Le maréchal l'annonça au peuple français.
Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. Cette rencontre a suscité des espérances et provoqué des inquiétudes. Je vous dois à ce sujet quelques explications. Une telle entrevue n'a été possible, 4 mois après la défaite de nos armes, que grâce à la dignité des Français devant l'épreuve, grâce à l'immense effort de régénération auquel ils se sont prêtés, grâce aussi à l'héroïsme de nos marins, à l'énergie de nos chefs coloniaux, au loyalisme de nos populations indigènes. La France s'est ressaisie. Cette première rencontre entre le vainqueur et le vaincu marque le premier redressement de notre pays. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun diktat, aucune pression. Une collaboration a été envisagée entre nos deux pays. J'en ai accepté le principe. Les modalités en seront discutées ultérieurement. À tous ceux qui attendent aujourd'hui le salut de la France, je tiens à dire que ce salut est d'abord entre nos mains. À tous ceux que de nobles scrupules tiendraient éloignés de notre pensée, je tiens à dire que le premier devoir de tout Français est d'avoir confiance. À ceux qui doutent, comme à ceux qui s'obstinent, je rappellerai qu'en se raidissant à l'excès, les plus belles attitudes de réserve et de fierté risquent de perdre de leur force. Celui qui a pris en main les destinées de la France a le devoir de créer l'atmosphère la plus favorable à la sauvegarde des intérêts du pays. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Ainsi, dans un avenir prochain, pourrait être allégé le poids des souffrances de notre pays, améliorer le sort de nos prisonniers, atténuer la charge des frais d'occupation. Ainsi, pourrait être assouplie la ligne de démarcation et faciliter l'administration et le ravitaillement du territoire. Cette collaboration doit être sincère. Elle doit être exclusive de toute pensée d'agression. Elle doit comporter un effort patient et confiant. L'armistice au demeurant n'est pas la paix. La France est tenue par des obligations nombreuses vis-à-vis du vainqueur. Du moins, reste-t-elle souveraine. Cette souveraineté lui impose de défendre son sol, d'éteindre les divergences de l'opinion, de réduire les dissidences de ses colonies. Cette politique est la mienne. Les ministres ne sont responsables que devant moi. C'est moi seul que l'histoire jugera. Je vous ai tenu jusqu'ici le langage d'un père. Je vous tiens aujourd'hui le langage du chef. Suivez-moi. Gardez votre confiance en la France éternelle.
Un historien écrira « Montoire, Verdun diplomatique ». Le maréchal aimait à s'adresser à la nation française douloureuse afin d'entretenir en elle l'espérance. C'est le soir de Noël qu'il le faisait avec le plus d'émotion. Voici ce qu'il disait le soir de Noël 1942.
Je n'ai pu me résoudre à ajouter à la détresse de l'année qui s'achève celle d'une nuit de Noël passée dans le silence entre vous et moi. Des événements douloureux récents aurait pu m'inciter à cette attitude. Mais je pensais que je me devais à tous ceux qui souffrent, qui attendent du chef un mot de réconfort et d'encouragement. Familles en deuil, peuples des villes qu'accablent les privations, mères anxieuses de la santé de leurs enfants, prisonniers que tourmente la pensée des êtres chers dont ils sont séparés. N'y a-t-il pas aussi les autres, les fidèles de la France et de l'Empire, mes légionnaires, nos soldats sans armes, nos marins sans navire, nos ouvriers qui travaillent à l'étranger. À tous, je dis mon espérance invincible dans l'avenir. En cette nuit de Noël, où les hommes les plus rudes retrouvent un cœur d'enfant pour croire et pour aimer, je songe avec émotion que la France, au cours des siècles, n'a pas cessé d'être aimé et proclamé par beaucoup de peuples leur deuxième patrie. À cette époque, on avait foi en la parole et en l'honneur des Français. En juin 1940, je vous avais promis de rester parmi vous. J'ai tenu ma promesse et me voici toujours au poste que l'Assemblée nationale m'a assigné, toujours prêt à servir. Mon honneur à moi est de rester à ce poste, face au danger, sans armée, sans flotte, au milieu d'une population malheureuse. Votre honneur à vous est de redonner à ce beau mot toute sa valeur, en vous aimant les uns les autres, en soulageant les misères, en rendant à la France son vrai visage. Ne croyez pas qu'un pays puisse se sauver sans l'effort de chacun. Ceux qui vous le disent mentent. Travailler, s'entraider, obéir doivent être vos seuls mots d'ordre. Restez dignes dans le malheur. N'abandonnez jamais une parole donnée. Soyez toujours des exemples de loyauté, de fierté et d'honneur. Vous deviendrez ainsi un symbole. Le monde recherche la lueur qui lui permette l'espoir de la paix. À cette paix, je n'ai cessé de penser depuis 2 ans et de préparer les voies qui doivent y conduire. Ma famille fortifiée et honorée, des œuvres de jeunesse créées et développées, la charte du travail où j'ai voulu de tout mon amour unir les classes au lieu de les opposer, la recherche et le respect de toutes les valeurs spirituelles pour que la vie ait un but et une forme, où le cœur et l'esprit s'accordent pour créer une France nouvelle. Il ne s'agit pas pour moi de vous adresser ce soir des vœux d'avenir. Pas plus que vous, je ne sais ce que l'année nouvelle doit apporter. Misère ou soulagement. La Providence a ses desseins, mais je vous dis bien haut, Français, méditez vos malheurs. La méditation, loin de vous accabler, vous élèvera. Comprenez ce que vous avez été, ce que vous êtes, ce qu'il faut que vous deveniez. À l'heure où il semble que la terre manque sous vos pieds, levez la tête vers le ciel. Vous y trouverez assez d'étoiles pour ne plus douter de l'éternité de la lumière et pour placer où il convient vos espérances.
Le soir de Noël 1943.
Mes chers amis, pour la 4e fois, la France célèbre dans l'épreuve et la tristesse un Noël de guerre. Les événements m'obligent à donner à mes voeux l'accent d'une suprême exhortation. Ce soir, je m'adresse à vos cœurs de Français. Entendez votre chef, qui ne veut être dans le grave et solennel silence de cette veillée qu'un Français qui souffre comme vous, avec vous. Noël, fête de la famille. Dans les camps, plus d'un million des nôtres ont le cœur meurtri par l'épreuve d'une longue séparation. Dans les usines, les travailleurs sentiront plus vivement ce soir le poids d'un éloignement qui est dû aux exigences de la guerre. Je pense à tous ces foyers où manque la présence protectrice du Père, vers lequel sont tournés tant de visages d'enfants, tant de regards d'épouses et de mères. Noël, fête de la nativité, et la mort plane sur le monde entier, et la France subit chaque jour l'épreuve cruelle de nouveaux crimes et l'immense misère des bombardements sous lesquels nos villes s'écroulent, jetant sur les routes ceux qui ont échappé au massacre. Malgré tant de désastres, je garde ma foi dans l'avenir de la France, mais je vous supplie, Français, de renoncer aux stériles discussions, aux vaines rivalités, aux haines mortelles. Dans le malheur qui nous accable, tendons-nous des mains fraternelles. Écoutez un homme qui n'est là que pour vous et qui vous aime comme un père. Une fois de plus, je vous adjure de penser par-dessus tout, au péril de mort que courrait notre pays si sur lui s'abattait la hideuse guerre civile ou si triomphait le communisme et sa barbarie païenne. Croyants, sceptiques ou indifférents, accueillez ce soir cet ultime avertissement. Mais ne finissons pas cette nuit de Noël sur des si douloureuses perspectives. Je veux encore affirmer devant vous et avec vous mon espoir. Nos prisonniers, nos travailleurs sont loin de nous. Ils retrouveront leur foyer. Nos villes sont détruites, nous les reconstruirons. Nos misères sont immenses, mais la tempête passera et les Français recommenceront à s'aimer. Héritiers d'une vieille civilisation, fiers de notre passé, dédaigneux des menaces qui voudraient nous rayer du nombre des grandes puissances, nous pouvons hautement proclamer notre volonté de vivre, notre foi dans l'avenir et notre espoir que la paix sera rendue un jour aux hommes de bonne volonté.
Le 6 juin 1944, c'est le débarquement en Normandie. L'avance des Alliés est foudroyante. Le samedi 19 août, le général allemand von Neubronn fait savoir au maréchal qu'il a l'ordre de l'emmener et lui demande de ne pas s'opposer à l'exécution de cet ordre. Le maréchal refuse. Il déclare qu'il résistera par tous les moyens. Von Neubronn répond qu'il détruira Vichy par les Stuka et par l'artillerie. Le maréchal dira alors au ministre de Suisse, Walter Stucki, « Je n'ai pas le droit de laisser bombarder Vichy pour entrer dans l'histoire avec plus de gloire. » Le dimanche, dès l'aube, des éléments de la Feldgendarmerie et du SD, une automitrailleuse, prennent position autour de l'hôtel du Parc, les blindés près de Cusset. Le chef de la Gestapo et ses hommes pénètrent par effraction dans l'hôtel, font sauter les grilles et les serrures fermées. Le maréchal est fait prisonnier. Avant de partir, il avait fait diffuser par des moyens de fortune cet ultime message, interdit à la radio par les Allemands.
Français, au moment où ce message vous parviendra, je ne serai plus libre. Dans cette extrémité où je suis réduit, je n'ai rien à vous révéler qui ne soit la simple confirmation de tout ce qui, jusqu'ici, a dicté ma conduite pendant plus de 4 ans. Décidé à rester au milieu de vous, j'ai chaque jour cherché ce qui était le plus propre à servir les intérêts permanents de la France, loyalement et sans compromis. Je n'ai eu qu'un seul but, vous protéger du pire. Et tout ce qui a été fait par moi, tout ce que j'ai accepté, consenti, subi, que ce fût de gré ou de force, ne l'a été que pour vous sauvegarder. Car si je ne pouvais plus être votre épée, j'ai voulu rester votre bouclier. En certaines circonstances, mes paroles et mes actes ont pu vous surprendre. Sachez enfin qu'ils m'ont fait alors plus de mal que vous ne l'avez vous-même ressenti. J'ai souffert pour vous, avec vous, mais je n'ai jamais cessé de m'élever de toutes mes forces contre ce qui vous menaçait. J'ai écarté de vous des périls certains. Il y en a eu, hélas, auxquels je n'ai pu vous soustraire. La conscience m'est témoin que nul, à quelque camp qu'il appartienne, ne pourra là-dessus me contredire. Ce que nos adversaires veulent aujourd'hui, c'est m'arracher à vous. Je n'ai pas à me justifier à leurs yeux, je n'ai souci que des Français. Pour vous, comme pour moi, il n'y a qu'une France, celle de nos ancêtres. Aussi, une fois encore, je vous adjure de vous unir. Il n'est pas difficile de faire son devoir s'il est parfois malaisé de le connaître. Le vôtre est simple, vous groupez autour de ceux qui vous donneront la garantie de vous conduire sur le chemin de l'honneur et dans les voies de l'ordre. L'ordre doit régner, et parce que je le représente légitimement, je suis et je reste votre chef. Obéissez-moi et obéissez à ceux qui vous apporteront des paroles de paix sociale, sans quoi nul ordre ne saurait s'établir. Ceux qui vous tiendront un langage propre à vous conduire vers la réconciliation et la rénovation de la France par le pardon réciproque des injures et l'amour de tous les nôtres, ceux-là sont des chefs français. Ils continuent mon œuvre et suivent mes disciplines, soyez à leur côté. Pour moi, je suis séparé de vous, mais je ne vous quitte pas et j'espère tout de votre dévouement à la France dont vous allez, Dieu aidant, restaurer la grandeur. C'est le moment où le destin m'éloigne. Je subis la plus grande contrainte qu'il puisse être donné à un homme de souffrir. C'est avec joie que je l'accepte, si elle est la condition de notre salut, si, devant l'étranger, vous savez être fidèle au vrai patriotisme, à celui qui ne pense qu'aux seuls intérêts de la France, et si mon sacrifice vous fait retrouver la voie de l'union sacrée pour la renaissance de la patrie.